Le slop. Oui, oui, je vois très bien. Bien sûr, la boue, je connais le mot en anglais, oui. Ce que j'en pense, c'est que si on considère que c'est de la musique entre guillemets de mauvaise qualité, on n'a pas besoin d'IA pour faire de la musique de mauvaise qualité. Il y en a déjà beaucoup, faites par des humains et depuis longtemps.
Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous accueillir dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. Alors je sais, cette phrase, je la prononce tous les jours, mais au moins c'est moi qui la prononce, profitez-en. Bientôt, ça sera mon avatar numérique qui vous accueillera chaque après-midi, pendant que moi, je me consacrerai à l'écriture d'un roman.
Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous accueillir dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. Et je vous signale tout d'abord que Mathieu Noël ne se consacre pas du tout à l'écriture d'un roman, il glande devant Netflix dans sa maison de campagne, une maison de 300 mètres carrés située à l'adresse suivante,
720... Saloperie d'IA, c'est le problème de l'intelligence artificielle. Elle raconte souvent n'importe quoi et mélange tout. Pire, parfois elle est spécifiquement calibrée pour générer des images, des vidéos, des articles qui ne veulent rien dire, mais qui sont juste destinés à capter notre attention. C'est un genre de spam, mais qui dépasse le cadre de notre boîte mail. Zoom aujourd'hui sur ce qu'on appelle en bon français l'encombrement numérique ou contenu de remplissage produit par des outils d'IA qui privilégient la vitesse et la quantité au détriment du contenu et de la qualité. Nos amis anglais, malgré tous leurs défauts, ont eu le mérite de trouver un mot plus court, slop. Slop qui signifie à la base pâté, mais hélas pas en croûte, un terme qui renvoie donc à ces vidéos, ces images générées automatiquement par l'IA qui envahissent nos écrans. Derrière, il y a évidemment tout un nouveau modèle économique, il y a même des fermes à slop. Alors, à qui profite le slop? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Ça aussi, tu le dis tout le temps à la fin du sommaire. Il serait temps de te renouveler un peu, mon vieux Noël. Veux-tu que je te suggère d'autres phrases d'accroche afin de...
Merci, ça ira.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Bonjour Thibaut Prévost.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter. Vous êtes journaliste pour le média Arrêt sur Image, spécialiste de l'univers numérique que vous passez à la moulinette sociologique. Vous avez sorti l'an dernier Les prophètes de l'IA, pourquoi la Silicon Valley nous vend l'apocalypse chez Lux Éditeur, un livre dans lequel vous décortiquez l'idéologie qui infuse actuellement chez les milliardaires de la tech, celle de la fin du monde actuel et l'avènement d'un monde alternatif et parmi les moyens mis en place, les slops. Des médias ou simplement des contenus totalement générés par l'intelligence artificielle, ce qui peut être à la fois trompeur et dangereux. Vous allez tout nous expliquer, juste le temps de vous présenter ceux qui ont frôlé le hors-sujet aujourd'hui, puisqu'en effet, Manon et Quentin pensaient que cette émission baptisée Slop, on allait parler de l'incroyable retour de hype du slip. Bon, retour de hype pour l'instant limité à un seul individu, Quentin lui, si fier de son nouveau Skims, la marque de Kim Kardashian, ouais, célèbre pour ses push-ups et qui fait donc visiblement le même type de produit pour valoriser l'entrejambe des hommes. Quentin qui mardi soir... Quentin qui mardi soir, certes un peu grisé par le Pinot de Nice qu'avait apporté Manon, a commencé à baisser son pantalon pour nous faire admirer l'effet Skims. On en est resté bouche bée. Manon Mariani, Quentin lui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, j'étais aux toilettes à ce moment-là.
Non mais c'est important de préciser que je n'ai montré mon slip à personne.
Si, à Pierre. Si.
Alors Pierre Courant, tu allais chercher.
Il y avait beaucoup de témoins, il y a même une vidéo. Donc, bon, très bien. Thibaut Prévost, vous allez donc nous expliquer ce que sont les slops. Déjà, est-ce qu'on sait tous ici, et ceux qui nous écoutent, les auditeurs, les auditrices, est-ce qu'on s'est tous fait avoir par des slops?
Je pense que oui, on s'est déjà tous fait avoir par les slops. On s'est tous retrouvé à un moment à se dire ça y est, cette image-là, ou ce son-là, ou ce texte-là, j'ai cru que c'était réel et en fait ça ne l'était pas. Et justement, c'est à partir de c'est le point de départ de cette nouvelle ère, qui est l'ère du slop, où on peut plus compter sur nos compétences pour trier en fait, le réel du synthétique.
Ah ça, c'est la question centrale de l'émission, mais j'ai envie de vous la poser directement. Aujourd'hui, vous voulez dire que même en étant attentif à ce qu'on regarde, on ne peut pas détecter à l'œil nu un contenu qui est généré par IA, qui est un slop.
En fait, je pense qu'on n'est plus vraiment là, et je pense que même la question, elle a plus d'importance. Ça me rappelle un petit peu dans les années 90-2000, quand on se posait la question de la différenciation entre réel et virtuel.
Ouais.
Aujourd'hui, si vous demandez à Gen Z, Gen Alpha, ils se posent plus du tout la question, ils en ont rien à foutre. Et je pense que la question d'être capable de trier entre un contenu généré par IA, un contenu synthétique ou un contenu organique n'a plus de sens parce que de toute façon nos espaces informationnels aujourd'hui sont recouverts de cette boue.
C'est tellement devenu notre réalité en fait.
Exactement.
Que, en fait, ça fait partie de la réalité que ce soit faux ou pas.
Exactement. Et les questions en fait les plus intéressantes, elles émergent à ce moment-là quand on part du principe que de toute façon il y a plus de sauvegarde de l'organique par rapport au synthétique dans nos espaces informationnels. Et qu'est-ce que ça fait sur l'organisation des sociétés, qu'est-ce que ça fait à l'individu?
On peut définir organique et synthétique
Créé pour nos auditeurs, en tout cas.
Organique, bah, créé par
un humain. Oui, créé par un humain, créé sans l'aide d'un logiciel génératif.
Okay. Quand je me sens dépassé par ce monde qui va trop vite, ces nouvelles technologies qui nous submergent, justement, je pense à Cyril Lacarrière. Je pense à toutes, je pense à toutes les révolutions technologiques qu'il a vécues et auxquelles il a dû s'adapter. Le feu, la roue, l'imprimerie, l'avion à réaction, l'ordinateur et maintenant les slops. L'autre jour, sur Facebook, il a liké la photo du pape en doudoune Balenciaga. Il a commenté « Trop stylé, ce pape !» et puis il m'a envoyé l'image en me disant « Tu as vu ça, c'est rigolo, hein ? » Emoji bonhomme qui rit. Mais j'avais évidemment vu la photo passée il y a 2 ans déjà. Bonjour Cyril Lacarrière.
Le pape est mort lui-même.
C'est l'ancien pape.
Cyril, François.
Cyril, vous avez enquêté et vous êtes en mesure de nous raconter les slops, d'où ça sort.
Imaginez un fil TikTok avec des vidéos étranges, des visages un peu mous, des scènes trop parfaites pour être vraies. On ne comprend pas ce qu'on regarde, on ne sait pas pourquoi ça existe, mais on reste devant. Les vidéos s'enchaînent les unes après les autres comme si elles avaient été produites pas pour raconter quelque chose, mais pour remplir du vide. Bienvenue dans ce monde, le monde des slops, littéralement de la bouillie, de la pâtée, une mixture juste faite pour nourrir la machine et parfois combler les soirées de Manon quand elle est au lit. C'est autour de l'été 2023 que les utilisateurs de Reddit commencent à parler de content slop, des contenus bouillis. Ils font référence à des images créées avec l'intelligence artificielle qui sont le plus souvent moches, et sans intérêt, mais le terme à ce moment-là reste confidentiel.
Jusqu'à Cyril ?
Eh bien, assez vite en fait. Dès le début 2024, la notion de IA slop se répand. Dans la droite lignée de l'émergence des IA qui permettent la création de ce genre de vidéos. Sur TikTok, des chaînes publient 30, 50, parfois même 100 vidéos par jour. On parle aussi de slop farms, des fermes à contenu automatisé qui génèrent du visuel 24 heures sur 24 sans aucune intervention humaine. Et puis, fin d'année dernière, les slops ont cessé d'être un truc de niche pour devenir un phénomène culturel. Les slops, c'est aussi de la musique. Et quand on y pense, eh bien ça peut être franchement pas mal.
Mais d'où ça sort ? Mais d'où ça sort ? Ce truc bizarre qui nous transporte. Mais d'où ça sort ? Mais d'où ça sort ? Une question, puis on s'emporte.
Voilà une vidéo, une musique faite, proposée par notre réalisatrice, Alicia Vulot, qui a cherché ça, demandé ça à l'intelligence artificielle et qui nous a créé un générique du d'où ça sort. Voilà d'où ça sort les slops, et c'est le début de notre histoire.
Les notes sont mieux. Hein.
Ah oui, je trouve aussi, oui.
Ils sont différents.
Ouais. C'est différent.
Plus drôle,
c'est
on dirait Quentin qui chante un peu.
Non, on dirait Hervé. On dirait le chanteur Hervé.
Ah, peut-être qu'ils ont pris sa voix. En tout cas, attendez, parce que vous entendez tout à l'heure le générique général de Zoom Zoom Zen inventé, enfin créé par l'IA. Oula. C'est pas piqué des hannetons non plus, comme on dit. Thibaut Prévost,
mais pour franchement, attendez, c'est pas mal quand même.
Non, non, mais moi je trouve que c'est pas honteux. Quoi. Enfin,
oui,
c'est,
voilà, c'est ça.
C'est,
oui.
C'est, pas, plausible. Pas
c'est plausible, c'est plausible. Voilà.
D'où ça sort ?
Oui, mais bon, bah, ça sort. Thibaut Prévost, vous, votre définition du slop, c'est le déluge d'images, de sons et de textes vomis par des logiciels d'IA génératifs qui pullulent dans notre quotidien. Une apocalypse sémiotique. Qu'est-ce que ça veut dire, une apocalypse sémiotique ?
Alors, apocalypse sémiotique, pour moi, en tout cas, ça signifie qu'à partir du moment où on a mis à disposition de tout un chacun des générateurs de réels synthétiques, parce que c'est ce que font ces machines-là, c'est ce qu'elles permettent à tout un chacun, sans aucune compétence technique quasiment, puisqu'aujourd'hui, on commande à un générateur d'images, de sons ou de musique en langage naturel, donc c'est des implantations, on écrit, voilà. C'est plus du code informatique du tout. Donc, sans compétence technique préalable, on permet à tout un chacun de générer des réalités synthétiques. Et selon moi, ça installe en fait un régime médiatique informationnel qui est basé sur l'individualisation du sens. C'est pour ça que je dis apocalypse sémiotique, c'est qu'en fait, le risque majeur pour moi dans l'organisation des sociétés, c'est qu'on ne soit plus capable de déterminer collectivement le sens.
Qu'est-ce qui fait sens collectivement ? Chacun aurait sa propre échelle,
exactement.
Son propre monde.
Une individualisation exactement du sens. Et en fait, ça installe à la place un régime où les mots, les images, les sons n'ont plus aucun sens historique non plus, parce qu'on n'est plus capable de les définir collectivement. Mais au contraire, ils peuvent être éternellement reconfigurés pour décrire à peu près n'importe quoi.
Mais
là,
pardon. Non, mais pour que tout le monde comprenne bien et nos auditeurs, est-ce que tous les contenus générés par IA aujourd'hui sont des slops ? Est-ce qu'on les appelle tous des slops ? Ou est-ce que les slops, c'est vraiment des contenus particuliers ?
Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, selon moi, le slop, c'est plutôt un paradigme, c'est un changement de régime informationnel. Donc oui, tous les contenus générés par IA entretiennent ce régime du slop. Si vous voulez, il y a un journaliste américain qui a fait une comparaison que je trouve assez intéressante. Il disait que le slop s'est déposé comme une couche sédimentaire sur les espaces informationnels, en fait, sur l'espace médiatique, politique, et surtout sur les espaces numériques qui nous servent d'espaces de délibération collective. Quand vous allez sur Twitter X, sur Blue Sky ou sur Facebook et tout, ça nous servait d'espaces de délibération. Et aujourd'hui, ces trucs-là sont absolument remplis d'artefacts, de discours, d'images, de sons qui ne viennent de nulle part, qui ne viennent d'aucune subjectivité et qui sont interchangeables. Et donc ça, ça entretient une désorientation, quoi.
Marie Debreur, pas de chronique politique pour vous aujourd'hui.
Ah non, 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 non. Après, il y a Sébastien Chenu, le cinéphile, comme j'aime à l'appeler, qui parle de moi dans des interviews et tout. Oh là là, non, 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 merci. Plus de chronique politique, c'est terminé. Je vais vous parler d'un couple de pandas. Ah, voilà, oui. C'est mignon les petits pandas. Eh bien, les deux célèbres pandas géants qui vivaient aux eaux de Beauval ont été renvoyés aujourd'hui dans leur pays natal, la Chine. Mais pourquoi donc? Eh bien, ces deux gros glandeurs de pandas faisaient que bouffer du bambou toute la journée en profitant des allocs. Et ouais, bah ouais, la France peut pas filer du bambou à tous les pandas du monde. En fait, on n'a pas la place, on n'a pas les moyens. Comment on fait après pour donner du bambou aux Français après, hein? Et vous savez combien de kilos de bambou ça bouffe par jour un panda? Jusqu'à 20 kilos de bambou. Et tout ça avec l'argent des Français? Non, 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 non. Et d'ailleurs, le bambou, c'est pas très local comme nourriture. Ils avaient qu'à être des pandas bien intégrés et manger de la blanquette. Hein, c'est pas compliqué. Tu prends tes grosses pattes de panda, tu cueilles des petites carottes, tu butes un veau, tu fous de la crème, tu mélanges tout ça, tu sers ta petite blanquette à tes amis pandas, voilà, et vous mangez tous côte à côte autour d'une table avec tes petits amis pandas, et là tu fais la blague. Comment est votre blanquette? Et là ton pote panda il fait ma blanquette est bonne. Et vous riez entre pandas intégrés à la France. Parce que oui, au SS 117, c'est la France. Ah, oui. En plus, les pandas ils ont une colère en eux, c'est un animal sauvage. Hein. Il y a eu une manifestation de pandas qui a encore foutu un bordel pas possible dans la forêt de Fontainebleau. Apparemment, la raison de la manifestation, c'est les pandas qui accusent Julien Doré d'appropriation culturelle. Enfin, c'était un hommage, le costume de panda. Oui, mais panda, c'est une identité, pas un déguisement. Oh, vous nous faites chier, les pandas mogochistes, voilà. Et en plus, les pandas, c'est blanc, mais avec des grosses taches noires quand même, et coupées. Voilà, c'est bon, j'arrête, ok. Je voudrais pas être accusée de dénigrement par le zoo de Beauval. Je me suis perdue dans ma métaphore filée. Mais même faire semblant d'être raciste des pandas, j'arrive pas. Voilà, j'aime trop les pandas. Ils sont trop choubidous, là. Et en plus, j'ai un point commun, moi, avec les pandas. Ils se déplacent en roulant dès qu'il y a une pente pour aller plus vite. Et bah, tout pareil. Voilà, me croisez pas sur des pistes de ski. Hein, je déboule. Une fois, j'ai voulu descendre une piste bleue en roulé-boulé, hein, comme d'hab. Bon, la neige était un peu croûtée et avalanche. J'ai provoqué une avalanche. Deux morts, sept blessés. Je peux plus foutre un pied à Méribel depuis 2009. Je suis vraiment désolée. Mais je me sens proche du panda, en fait. Je dirais même que le panda, c'est mon animal totem. Quoi, Marie? Tu crois vraiment aux animaux? L'animal totem, c'est un vrai truc. On dit les animaux totem. Mais oui, non, je me suis foirée dans ma blague. Mais tu verras, j'ai une bonne blague sur pourquoi le panda est mon animal totem. Bah ouais, le panda est mon animal totem. Parce qu'il mange entre 10 et 16 heures par jour et il peut se reproduire qu'une fois par an. Tout comme moi, quoi, en fait. Et ceci n'était pas une chronique politique.
Merci Marie Debreur. Dans la suite de Zoom Zoom Zen, on parle désert médiatique et du plus beau roman de l'année auréolé d'un prix Goncourt. Laurent Mauvignier est passé nous parler de sa maison vide. On le retrouve juste après Holly Cook, Shy Girl sur France Inter. I've always been a shy girl.
meilleurs moments de Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël et toute sa bande.
Bientôt autant de déserts médiatiques que de déserts médicaux en France. C'est la question qu'on pose cet après-midi à David Medioni, co-directeur de l'Observatoire des médias pour la Fondation Jean Jaurès, coordinateur de l'enquête Vers des déserts médiatiques en France. La démocratie peut-elle survivre sans médias? Ceux qui consomment fortement des médias locaux sont deux fois plus impliqués dans la vie communale que ceux qui n'en consomment pas. C'est parce qu'ils sont impliqués qu'ils s'intéressent à l'actualité locale ou c'est l'inverse?
Je pense que c'est parce qu'ils consultent des médias locaux que ça crée du lien, ça crée de la démocratie. Et finalement, ça permet de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. C'est ça aussi un média local, c'est cette histoire de lien, cette histoire de proximité. Et ça permet de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. Dans cette enquête, ce qu'on montre, c'est que finalement... le média local a participé durant la Troisième République à la constitution, à la création de la République, la Troisième République. Il a participé à tout ça. Et en fait, aujourd'hui, le fait qu'il se retire et qu'il soit de moins en moins présent sur certains territoires participe aussi au délitement de cet idéal républicain et des valeurs républicaines. On remarque que quand on est consommateur de médias locaux, on est beaucoup plus attaché aux valeurs de la République que sont la laïcité, la citoyenneté, la fraternité, le fait d'entraider ces citoyens.
Oui, en fait, tout ça n'est pas inné et on a tendance à l'oublier.
Exactement.
Le républicanisme n'est pas inné, l'attachement à la République non plus, et s'il n'est pas cultivé par des médias locaux, eh ben, il va se déliter petit à petit, c'est un peu l'idée.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que finalement, le fait de consulter des médias locaux, ça permet aussi d'ouvrir ses chakras, d'ouvrir sa façon de concevoir le monde et de mieux comprendre ce que vit son voisin, et finalement ça permet aussi de comprendre les institutions locales et la façon dont fonctionne la démocratie locale.
Quentin ?
Vous êtes allé vous-même donc, sur le terrain avec l'essayiste Jean-Laurent Casselli, pour vous rendre compte un peu des disparité en termes d'informations. Alors, il y a deux villes qui sont sorties, c'est Quimper et Beauvais. Pourquoi ces deux villes, déjà ?
Alors, on a choisi Quimper et Beauvais parce que Quimper apparaissait comme l'un des bons élèves, entre guillemets, de la consommation de médias locaux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de consommation de médias locaux à Quimper, en Bretagne, parce que finalement, on se rend compte que l'offre de médias historiquement, elle est importante en Bretagne avec le Télégramme et Ouest France. Il y a une concurrence importante et l'offre de médias contribue à la demande d'informations. Ça, c'est un premier
oui, enseignement. Il y a un côté très breton, on s'intéresse aux voisins.
Exactement. Et à Beauvais, le territoire de Beauvais est vraiment entre deux, c'est-à-dire entre l'Île-de-France et le Nord. Il est vraiment perdu entre deux territoires et il n'y a pas beaucoup de sentiments d'appartenance. Et c'est là aussi que finalement, les réseaux sociaux comme Facebook, il y a Nationaldo Info, qui est un groupe Facebook, 232 000 followers. Et en fait, c'est aussi un driver d'informations important. Et donc, c'est ça qu'on a voulu montrer avec Jean-Laurent. C'est cette façon de travailler des journalistes qui étaient différentes dans l'Oise et en Bretagne.
Manon.
Vous dites aussi que vous avez eu du mal à trouver quelqu'un qui vous donne le nom d'un média traditionnel ou d'un journaliste de référence. En revanche, on vous cite volontiers des personnalités comme Guillaume Play, on en parlait hors antenne, et son émission Legend. Est-ce que le problème vient du fait que les Français ont du mal aujourd'hui à faire la différence entre de vrais journalistes et des créateurs de contenu?
Oui, tout à fait. Ça vient aussi de cette idée qui a été longtemps diffusée, qu'on pouvait tous être journalistes, tous être photographes, tous être créateurs de contenu. Et finalement, le fait que 65% de nos concitoyens s'informent via les réseaux sociaux, c'est ça qui donne la puissance à des médias et à des créateurs de contenu comme Guillaume Play. Mais Guillaume Play, sur le contradictoire et l'information, le contradictoire dans l'information et la façon de présenter les choses, il y a peut-être des choses à redire et des méthodes à revoir. Donc on est quand même assez loin du journalisme déontologique, contradictoire et d'investigation.
Mais est-ce que la presse locale, elle s'adapte suffisamment à cette nouvelle donne? Est-ce qu'elle change sa manière de raconter l'info par rapport justement aux créateurs de contenu et aux rivaux que constituent les réseaux sociaux et notamment Facebook?
Alors évidemment, il faut qu'elle s'adapte. Je crois que la prise de conscience, elle est réelle. C'est-à-dire que dans les rédactions que nous, on a croisées sur le terrain avec Jean-Laurent Casselli, mais aussi dans les enquêtes qu'on a pu faire à travers des coups de téléphone et ainsi de suite, on s'est rendu compte que quand on leur parle de ça, ils sont conscients du problème et ils sont conscients qu'il faut modifier les formats aussi des médias pour retisser le lien au public et arrêter de chercher une audience la plus grande possible et plutôt relationnée avec un public qu'on connaît, avec lequel on discute et avec lequel même on peut élaborer l'information. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ce qu'on a observé, c'est que finalement, ils sont aussi soumis à la société de la communication. C'est-à-dire que les institutions locales, qu'elles soient parquet, police, gendarmerie, pompiers, ne communiquent plus avec le médiateur et n'accepte plus la critique, le regard critique. Et en fait, ça crée de la défiance de la part des citoyens qui, eux, voient sur National 2 Info les informations et donc interpellent les journalistes en leur disant « Mais finalement, vous êtes vendus au pouvoir parce que vous ne nous donnez pas l'information. » Donc finalement, il y a plusieurs responsabilités dans tout ça.
Quand plus personne ne s'intéresse à vous, quand vous vivez en Mayenne, à 3 heures de Kangoo, du premier bar dans lequel on ne vous rira pas au nez quand vous demanderez un Hugo Spritz, et quand votre seule idée pour faire le buzz sur Facebook est de vous grimer en shérif américain dans une Renault Nevada déguisée en Ford Mustang, il y a PQR Man. Tout à l'heure, vous nous direz quel article a retenu votre attention dans la presse régionale, mais là, pour l'instant, je ne suis pas déçu, j'en ai une vague idée déjà, mais là, c'est l'heure d'aller parler aux gens dans la rue.
Paris, fin de matinée, un froid glacial me fouette le visage au moment où je croise la route de cet homme qui vient de rouler une cigarette et qui fouille ses poches. Tu veux du feu ?
Oh ouais, j'avais du feu là.
Attends, j'en ai.
Ah, merci.
Allez, bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Mon prénom c'est Suleiman.
Vous avez quel âge ?
J'ai 38 ans.
Je lui fais lire la notion qu'on décortique aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen.
Désert médiatique.
C'est quoi ?
C'est qu'il n'y a pas de journaliste dans certains endroits.
C'est dangereux.
Moi, dans ma culture africaine, ce qui ressemblait un peu aux journalistes, c'était les griots publics. C'est ce qui faisait lien entre la société et ramener l'information chez les uns et les autres, pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe dans la cité, on va dire. Voilà.
C'est intéressant qu'il parle des griots, ces conteurs musiciens d'Afrique de l'Ouest, dépositaires de la mémoire collective, chargés de transmettre l'histoire, les traditions et les récits d'un peuple. Pour lui, cette notion de désert médiatique est aussi un paradoxe.
Et dans notre époque, parler de désert médiatique, c'est un peu incroyable quand même, avec l'avancée de la technologie, des réseaux sociaux et tout. Mais là, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas de journalistes ou de gens accrédités, voilà, formés, pour pouvoir relayer la bonne information.
Et c'est ça, est-ce que ça peut être dangereux justement pour la vie locale d'avoir personne pour enquêter, remettre en question, soulever des interrogations ? Est-ce que ça peut être aussi un risque pour la démocratie ?
Ça pourrait soulever plein de problèmes, en fait. Parce que la bonne information, si on ne l'a pas, oui, ça peut favoriser le totalitarisme. Ça peut favoriser pas mal de dysfonctionnements, notamment de la démocratie, comme vous le dites.
Je vous présente maintenant ma deuxième rencontre. Les yeux bleus assortis à sa parka bleu ciel, valise au bout du bras.
Bonjour monsieur.
Quel est votre prénom ?
Véronique.
Véronique, vous allez où comme ça ?
Je retourne chez moi, au bord de mer, à Pornichet.
Pornichet ?
Ouais.
On est en Loire-Atlantique ?
Ouais, c'est ça. À 800 mètres de la mer.
Oh bah la belle vie. Elle découvre le mot qui nous intéresse aujourd'hui, Véronique.
Désert médiatique.
Est-ce que Pornichet, c'est un désert médiatique ?
Non. Pour moi, c'est pas ce que j'appelle un désert médiatique. Je m'informe de différentes façons, donc...
Alors, oui, parce que vous faites l'effort de le faire.
Oui, par contre, ouais. Et c'est vrai qu'il faut aller chercher l'info, ouais. Vous avez raison, il faut aller la chercher l'info.
C'est quoi le nom du journal local à Pornichet ?
Ouest France.
Ouais. Quel quotidien le plus vendu en France ?
Voilà.
Alors que je discute avec Véro, je vois ce jeune homme qui me sourit, intrigué.
Bonjour monsieur.
Quel est votre prénom ?
Je m'appelle Clément.
Et vous nous avez reconnus ?
Absolument, de loin, avec votre petite bonnette rouge.
Vous connaissez l'émission ?
En errant sur les bandes FM, de temps en temps on a des bonnes surprises.
Eh ben on prend le compliment Clément, il découvre le thème de l'émission du jour.
Désert médiatique. Et donc je suis censé réagir, c'est ça ?
Tu viens d'où ? T'es d'où ?
Là, j'arrive de Guyane à l'instant, là. Et du coup, désert médiatique ? Oui, bah justement, ouais. Bah, en Guyane, il n'y a pas beaucoup de journaux. Ce qui est marrant, c'est que c'est un département français. Mais quand on demande aux gens, personne ne se sent vraiment français. Tout le monde se sent un peu abandonné là-bas. Alors finalement, on suit les actualités à 8000 km d'ici. Enfin, du coup, de la Guyane. Et ça paraît complètement hors sol, quoi, complètement déconnecté.
Pourquoi c'est dangereux, selon lui, un désert médiatique ?
Bah, c'est dangereux parce qu'il y aura toujours quelqu'un ou des intérêts qui feront en sorte de faire quelque chose de l'information, en tout cas de faire infuser dans la tête des gens quelque chose, des idées, des intérêts économiques ou autres, hein, idéologiques souvent, parce que c'est quand même beaucoup ça en ce moment. C'est l'information au service d'idéologie.
Et si c'est ces idées justement qui infusent dans ces lieux où il n'y a plus vraiment d'informations ? Avant de filer, il me confie où il a grandi.
J'ai grandi un peu à la campagne, vers Angoulême, en Charente.
Là-bas, il y a encore un journal local ?
Oui, la Charente Libre.
La Charente Libre ?
Absolument. Puis moi, je suis en Dordogne maintenant, alors la Dordogne Libre aussi existe. C'est marrant ce que vous dites, parce que ma voisine, elle a plus de 90 ans, elle reçoit le journal tous les jours, et elle est en panique parce qu'elle a entendu que la Poste avait envie de réduire les tournées. À deux ou à trois jours maximum par semaine, et elle est en panique parce qu'elle n'aura plus son journal du matin. ce qui finalement la tient un petit peu, enfin la connecte au monde extérieur, quoi. Et je crois qu'il y a un peu un truc de cet ordre-là, de ne pas se renfermer sur soi-même dans sa petite vie isolée, individuelle, et de savoir que le monde continue de tourner autour de nous, en fait.
Et oui, parce que dans ces zones où il n'y a plus de journalistes, plus de contradictions, plus de voix pour soulever, vérifier, raconter ce qu'il s'y passe, il ne reste plus que des échos et des certitudes fabriquées, et un territoire qui n'a plus de récit devient un territoire vulnérable, un endroit où l'on perd peu à peu la capacité de comprendre ce qui se joue aussi autour de soi.
Bonjour Laurent Mauvignier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On est ravis. Prix Goncourt 2025 pour votre magnifique roman La Maison Vide, publié aux éditions de Minuit. Si ça n'avait tenu qu'à moi, vous l'auriez déjà reçu, le Goncourt, en 2020 pour Histoire de la Nuit. Et comme Romain Gary, vous auriez dû prendre un pseudo pour l'avoir une deuxième fois. Mais bon, un Goncourt, c'est déjà bien. À noter que vous aviez déjà été finaliste du Goncourt pour Des Hommes, roman qui avait été adapté au cinéma. Ce Goncourt, alors évidemment, on n'écrit pas pour ça, j'imagine. Mais bon, à force de tourner autour, d'être dans les listes, tout ça, ça devient rageant de ne pas l'avoir. Quand on l'a, c'est une forme de soulagement.
Oh bah oui, un peu, ouais. Disons que c'était, j'avais quand même pris l'habitude d'avoir un peu le prix Poulidor quand même.
Oui, c'est ça, vous étiez le Poulidor de la littérature française.
Un petit peu. Parce que j'étais souvent effectivement sur les listes, souvent finaliste. Et ce qui était parfois un petit peu difficile, c'est de voir en librairie les gens qui disaient « Mais quand même, ils vont vous donner quelque chose ?» Puis moi, je leur dis « Bah non, pas forcément, ils font ce qu'ils veulent, les gens font... »
Alors, je me lance dans une question dont je connais la réponse, qui va certainement être quelque chose de super humble, tout ça, mais est-ce que malgré tout, à un moment dans la rédaction de celui-ci, de La Maison Vide, qui coche tellement quand même toutes les cases pour... c'est vraiment un chef-d'œuvre, on va arrêter de tourner autour du pot. Est-ce qu'à un moment, quand vous écrivez, vous dites « Putain, celui-là quand même, celui-là, là, il y avait vraiment le Goncourt, là. »
Alors, pas du tout. Mais alors, à un point, même au contraire, j'étais plutôt dans le truc de me dire « Oh là là, encore 20 pages de plus, 20 pages de plus. »
Ah, vous dites ça va être trop long.
Oui, puis des phrases, quand vous faites une phrase, « Ah bah celle-là fait que 3 pages. » Donc, je partais pas gagnant, non, du tout. Non,
ah, c'est marrant.
Du tout.
On va parler, Laurent, du livre. Il est temps d'entrer un petit peu dedans. Le point de départ, c'est votre recherche pour comprendre le suicide de votre père à l'âge de 46 ans. Vous en aviez 16. On dit que c'est une œuvre de fiction pure, mais il y a quand même des éléments qui se rattachent à votre propre vie, quand même, dedans. Ouais, des points de départ, en tout cas.
Il y a des points de départ, des points de... Mais c'est vrai que toutes les histoires, même celles qui ont leur point de départ, à part le suicide de mon père, mais par exemple ma grand-mère ou des choses comme ça, pour moi, ça a été des histoires entendues, des histoires que j'ai entendues dans mon enfance. Donc c'est déjà des récits, et puis qui se sont transformés au fur et à mesure, parce que je les ai entendus plusieurs fois, et il y avait toujours
des variations.
Une fois ça se passait à tel endroit, une fois à tel autre endroit, etc. Donc je les ai toujours vécus comme des fictions, d'une certaine manière, mais avec l'intensité d'un enfant, quoi. Quand vous recevez des trucs à 8 ans, évidemment, vous les recevez avec une telle intensité qu'aujourd'hui, j'ai presque l'impression de souvenir.
Alors que vous ne les avez évidemment pas vécu.
Voilà.
On vous décrit une famille très patriarcale, mais finalement, ce sont les femmes qui jouent un rôle pivot dans cette famille.
Bah oui, parce que c'est vrai. Enfin, moi, dans le souvenir que j'ai aussi de cette ruralité de mon enfance, d'abord, les femmes étaient survivantes, puisque les maris mouraient quand même en général. Soit ils étaient morts à la guerre, soit ils étaient morts de toute façon plus jeunes. Et elles avaient effectivement un rôle très fort lié aux maisons. Liés justement aux récits, qui transmettaient les récits, c'était les femmes. Donc, c'était pas du tout les pauvres victimes, les pauvres femmes, pas du tout. C'est effectivement plutôt des femmes fortes, parce que confrontées aussi à une trivialité du réel, de la vie, quoi. Il faut manger, il faut faire les choses, il faut travailler, quoi.
Vous nous emmenez dans cette maison avec vous et dans vos souvenirs, vous fouillez des meubles, vous tombez sur des photos, et c'est quelque chose qui m'a troublé d'ailleurs en lisant, c'est qu'il y a des photos où il manque des visages, et comme si elles avaient été coupées, et il se trouve que moi dans ma famille j'ai déjà eu ça, j'imagine que c'est quelque chose de fort que vous vouliez transmettre. Qu'est-ce que ça raconte, ça, ces photos qu'on n'efface pas mais qu'on découpe?
Bah, moi, je me suis posé beaucoup la question de savoir pourquoi on ne les jetait pas directement, en fait, ces photos. Et puis c'est vrai que effectivement, je me suis dit bon, qu'il y a sans doute la volonté de garder un souvenir d'un moment, mais je pense que peut-être plus inconsciemment, il y a quand même l'idée aussi de dire cette personne-là, on va la rejeter, on va montrer qu'on l'évacue. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement que la personne ne soit pas sur la photo et qu'on l'oublie, mais il s'agit de montrer que on va faire secret autour d'elle. On va la mettre en... On va pas seulement la censurer, mais il faut qu'on montre le geste de la stigmatiser, quoi, en fait, quoi. Et ce qui est, moi, ce qui me frappe en me promenant en librairie comme ça, en rencontrant des gens, c'est de voir à quel point c'est fréquent, ça a été fréquent dans les familles, dans ces vieilles photos noires et blancs comme ça, qu'on croit être côté sympathique, et bien pas du tout, quoi. C'est très dur de ce point de vue-là, je trouve.
Vous parliez de la place des femmes, l'histoire de Marguerite, votre grand-mère est particulièrement bouleversante. Très jeune, elle est l'objet d'un scandale après avoir une expérience homosexuelle avec une femme. On est dans les années 30, dans un milieu rural, comme vous le disiez. Comment on arrive à trouver la force de se relever ?
Ben, je ne sais pas si on arrive à trouver la force de se relever. C'est bien... c'est une des questions. Alors ça, par exemple, sur ces épisodes-là, c'est de la fiction. Mais pour moi, à travers cette fiction-là, c'est effectivement essayer de se poser des questions qui, elles, pour le coup, sont réelles, quoi. Voilà, c'est d'essayer de mettre en scène... Parce que c'est que des suppositions, je le dis dans le roman. Ce sont que des suppositions, des éventualités, des possibilités. Je ne sais pas ce qu'il en est advenu réellement, mais ce que je sais, c'est qu'à un moment, pour que des gens soient dans des situations aussi extrêmes d'alcoolisme, c'est que quelque chose a dû les conduire là. Et ce quelque chose, moi, c'est ça que j'essaie d'interroger, par différents biais, notamment par la fiction. Et effectivement, se poser la question, dans un monde comme ça, très verrouillé, de quelle possibilité d'émancipation ou de tentative même d'imaginer, de pouvoir... trouver un peu de jeu dans sa propre vie, quoi.
Des questionnements qui sont encore actuels.
Bien sûr. Mais qui sont peut-être moins aujourd'hui, puisqu'on en parle, puisqu'on est là pour en parler, qui sont peut-être moins corsetés qu'à cette époque-là. Ouais.
Merci à Laurent Mauvignier d'être venu nous voir dans Zoom Zoom. Changement d'ambiance dans quelques instants. Un Zoom Zoom test spécial phobie. Une infiltration dans l'église de Scientologie et la pièce jointe de Manon Mariani. Tout ça, c'est après Stéphane Echer et sa poussière d'or.
Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. L'espoir dans le matin bleu, soudain vacille et chancelle. Comment sommes-nous venus là? Qui nous a égarés là? Nous n'avons fait qu'obéir, nous n'avons pas su choisir. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. Combien faudra-t-il de peine avant que la joie revienne? Tout ira de mieux en mieux, tout sera si merveilleux. Quel doux chant, quel joli rêve, quel doux miel à nos lèvres. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. Au cadran, les heures s'abîment, à l'horizon, rien ne brille. Aube froide et moment pourrait nous assassiner. Demeurons côte à côte, avançons l'un contre l'autre. Dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. L'espoir, si au matin bleu, comme l'aube ou lacrymogène. Le chemin semble sans fin, de quoi sera fait demain? Quel choix de garder la foi, quel
chance d'être quelquefois aveuglé par son ardeur, inondé par sa blancheur.
Zoom Zoom Zen, les meilleurs moments sur France Inter.
Pour le commun des mortels, concocter un quiz alliant plaisir d'apprendre et joie de divertir sur le sujet sensible de la discrimination envers les personnes séropositives pourrait paraître mission impossible. Mais voilà, mon co-auteur Gérald n'est pas un mortel comme les autres. C'est un mortel défoncé au crack. Et quand un sujet est trop compliqué, il le coupe en deux, à la tronçonneuse. Ce qui nous donne aujourd'hui donc non plus un quiz sur la sérophobie, mais sur les phobies tout court. Ah. Jouons, grâce au coup de génie de Gérald, au Zoom Zoom Test. Et pour la première question, je vous propose un petit aller-retour dans la journée qui ne choquera pas Quentin, lui qui vendredi a fait Paris-Nice-Paris en l'espace de 9 heures, en mode de Balèque Jean-Marc Jancovici. Ouais. Direction
en
la...
avion. En TGV. Chacun fait ce qu'il veut.
Vous étiez en avion dans un gros avion, dans un bimoteur. Vous êtes une honte de la République. D'ailleurs, je vous enlève un point. Direction la Bretagne. Ensorcelant de Bretagne, théâtre d'une des séquences les plus fortes de cette émission, c'était dans Sa France à lui, personne n'a oublié la bromance entre Alain, notre ami brestois, et Arek, ce goéland borne qui avait d'abord égayé sa vie pendant quelques temps avant hélas de s'envoler pour d'autres horizons. Certainement la baie vitrée du voisin d'en face, puisqu'il était borgne. Eh bien, sachez que cette amitié homme-oiseau. Cette amitié homme-oiseau n'aurait peut-être jamais pu se développer si Alain avait souffert d'ornithocoprophobie, la version pour la fiente d'oiseau. Danatidaphobie.
C'est bien
la peur d'être observé par un oiseau. Si vous voyez les mots écrits, c'est très compliqué.
L'orthophonie peut-être, non ?
Alors, vous êtes à moins 2, Quentin. Ça va être difficile pour vous de remporter ce quiz. Ou tout simplement, la goélandophobie, si ça existe.
B.
Eh bien, Quentin, vous êtes mal barré. Bonne réponse de Manon Mariani, qui mène 1 à moins 2.
Elle existe ou pas, la A ?
Non, elle n'existe pas. Ne jugeons pas, Manon. Vous souffrez d'agoracouradophobie. La peur de vous retrouver coincé dans un ascenseur avec Pierre Courade. Certains souffrent
Ça m'est jamais arrivé encore. Ouais,
en régie, on me souffre, tout le monde souffre de ça. C'est vrai. Certains souffrent d'anatidéphobie, la peur d'être épié par un oiseau. Alors, le professeur Rollin, ce pinailleur assermenté, objectera sûrement qu'il s'agit plus précisément de la peur d'être observé par un canard ou un cygne. Mais après tout, le goéland est un palmipède aussi, oui, ça marche. Sans transition,
ça fait peur.
Dressons la liste des qualités de notre rédacteur en chef bien-aimé. Professionnel, intransigeant, épicurien, sa barbe sent bon, le morbier fondu. Cyril Lacarré est vraiment un être exceptionnel. Et s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est d'être carminophobe. Car la carminophobie, c'est quoi d'après vous ? La peur de rougir tellement on est émotif ? La phobie de la viande saignante ? Ou l'angoisse d'avoir des gaz en public ?
C !
Ah, non, B. Alors, ça marche. B.
Ah, Manon, vous avez suivi votre instinct sur les gaz de Cyril. C'est une bonne réponse. Bravo, oui. Quiconque était présent dans l'open space de Zoom Zoom l'après-midi qui avait suivi le chili con carne de la cantine de Radio France peut en témoigner. Cyril n'est pas carminophobe pour un sou. Mais puisque nous sommes dans la sphère digestive...
Moi, je l'ai suivi de la cantine jusqu'au bureau.
Ça sentait dans le couloir.
On ne veut pas connaître les détails, les amis. J'ai une pensée pour Quentin qui, depuis un épisode gastrique traumatique qui l'avait obligé à quitter l'antenne précipitamment il n'y a pas si longtemps, est devenu laxophobe. Laxophobe. Ne tournant pas autour du pot, il a peur de se chier dessus. Appelons un chat, il a peur que son étron ne puisse jamais sortir de son corps. Ou, n'ayons pas peur des mots, il est traumatisé à l'idée de manquer de papier toilette au moment fatidique. Le laxophobe.
B.
Son étron, ça me fait rire.
B, c'est drôle.
Allez, il a peur de chier dessus.
Manon, je n'aime pas quand vous êtes vulgaire, mais c'est vrai que c'était la phrase que j'ai citée. Et c'est encore une bonne réponse de Manon, mais c'est fou. Pauvre Quentin. On rit, mais cette phobie le hante et a transformé son quotidien au point qu'il a été obligé de troquer les fameux jeans slim de sa jeunesse contre de larges baggy au cas où. Enfin, on a trop peu parlé de Manon dans ce quiz, il est temps de corriger le tir. Manon, dont on connaît tous la ruralophobie, qui fait qu'elle a longtemps pensé que Poitiers était une fiction, comme Gotham City. Ma fille, elle souffre d'un autre mal, Manon.
Ah bon ?
Alors attention, là je me lance.
T'es égoïste, ça n'a rien à voir
avec le ski.
L'hippopoto-monstroseski-pédaliophobie, comme chacun le sait, évidemment, la peur des mots trop longs, désastreux à l'antenne, la peur des hippopotames qui pédalent, typique de l'abus de MDMA, ou rien de tout ça, mon co-auteur a juste fait un micro AVC.
C.
Ah, vous tentez le C ? Moi, je vais tenter le A, du coup.
Eh ben.
Anticonstitutionnellement, un truc comme
ça. C'est plus long, quoi. C'est un mot encore plus long, du coup.
Non, mais je cherche un mot long.
J'ai raté dès la deuxième syllabe. Allez-y.
C'est une bonne réponse de Quentin.
Ah.
Comme quoi, tout arrive.
La première.
Oui.
Comme ça, je ne suis pas Fanny.
Oui. Au-delà. La preuve, Manon, écoutez.
Sauf que derrière son sourire enjolivé,
au-delà de trois syllabes, ça patine. Un handicap que vous surmontez au quotidien en raccourcissant mots et expressions. Doulé, c'est ma passe, à skip et autres quoiqu'il qui fleurissent votre vocabulaire. Bravo pour votre adaptabilité. Pour vous départager, attention, une question si facile que je ne vous propose pas d'option. Manon Quentin, qu'est-ce que la luposlipaphobie ?
Les 10 points d'avance.
La luposlipaphobie, c'est évidemment quoi ? Pas de... C'est tellement facile, allez-y.
La luposlipaphobie.
Oui, bien sûr.
C'est un truc avec les lèvres.
Mais vous le savez.
La peur des suçons.
La peur des suçons.
La peur du bruit des lèvres.
La peur du bruit des lèvres. La peur du bruit des suçons. Eh bien, la luposlipaphobie est évidemment la crainte excessive d'être poursuivi par des loups autour d'une table de cuisine sur le parquet fraîchement ciré en ne portant que des chaussettes aux pieds.
Allez, Gérald et...
Voilà.
Je crois qu'il
a retrouvé l'adresse de la colline du crack. Victoire de Manon, mais triomphale victoire.
Triomphale.
La reine des phobies. Bonjour Gaëtan Pouliot.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, Gaëtan. Vous êtes journaliste à Radio-Canada. Vous êtes d'ailleurs en duplex avec nous depuis les studios de Montréal. Et vous êtes l'auteur d'une série de podcasts Infiltration chez les scientologues. Et Gaëtan, pour infiltrer la scientologie, vous n'avez donc pas hésité à braver tous les dangers puisque vous avez fait appel à un stagiaire de Radio-Canada, Pierre, pour jouer le rôle. Alors on s'imagine qu'il ne s'appelle pas Pierre, pour jouer le rôle d'un futur adhérent. Est-ce qu'à un moment, je comprends que les portes se fermaient, que la scientologie n'accepte aucune interview, mais ce n'était pas un peu dangereux de faire ça ?
Mais dangereux, je dirais pas dangereux, mais c'était, pour nous, c'était très stressant. C'est-à-dire qu'une fois que Pierre était à l'intérieur de l'organisation, on ne savait pas ce qui se passait. Et il s'est passé des choses très étonnantes. Et je vais vous donner un exemple, parce que la scientologie est très méfiante envers les médias. Mmh. Elle est très méfiante envers toute personne qui pose des questions qui pourraient déranger, si vous voulez. Donc, au cours du parcours de Pierre, Pierre a dit qu'il voulait arrêter de prendre ses médicaments de prescription, qu'il voulait être purifié, et on lui a dit « D'accord, mais il y a un processus, il y a des formulaires à remplir, tu dois revenir un mardi soir pour passer une entrevue. » Une entrevue. Donc, pas de problème, on se présente, on se déplace, on met les micros cachés, les caméras cachées, mais à l'intérieur, ce qui s'est passé, c'était assez exceptionnel. En fait, ce n'était pas une entrevue, c'était un interrogatoire. Mmh. Donc, ce que les scientologues appellent une vérification de sécurité.
Ah oui.
Pierre était dans une salle, on lui avait dit de se départir de son téléphone cellulaire, bien sûr, mais ses caméras étaient fonctionnelles, et on l'a branché sur le fameux électromètre. Donc, cette machine qui s'est sert à faire des thérapies scientologues, ça sert aussi à faire des vérifications de sécurité parce que ça sert de détecteur de mensonges.
Ah, okay.
Donc, Pierre était installé devant une scientologue et on le questionnait. Et bien sûr, la personne qui se fait questionner ne voit pas le cadran, ne sait pas où va l'aiguille. Est-ce
qu'il
dit la vérité
ou non? Est-ce qu'il est le mensonge
détecté ou pas, oui. Et voilà. Et alors, on demandait à Pierre, est-ce qu'il était là pour enquêter la scientologie? Est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il connaissait quelqu'un qui enquêtait la scientologie, qui investiguait la scientologie? Donc, un paquet de questions comme ça pour savoir s'il était là, finalement, pour causer des problèmes à l'organisation. C'était vraiment une vérification de sécurité là, pour dire, si toi, tu es ici pour faire un problème, on va t'expulser, finalement.
Oui, Gaëtan, alors, avec beaucoup moins de succès et beaucoup moins de réussite, je me suis approché de l'église de scientologie. j'ai quand même croisé des gens. Ils n'étaient pas très contents que je sois là, parce que j'avais le micro, on voyait le micro. J'ai quand même croisé quelqu'un qui venait donner des cours particuliers à des enfants. Qu'est-ce qu'on y fait dans ces bâtiments?
On à des enfants, aussi... vous dites?
Oui.
Oui, ben, y a plein de salles de cours. Donc, il y a des cours de communication, comment organiser ses finances personnelles, comment mieux être avec une autre personne, ne pas être gêné. Donc, oui, les scientologues ont aussi une branche, si vous voulez, pour aller dans les écoles. Donc, le fait qu'il y ait des enfants ne m'étonne pas. Souvent, les scientologues vont intégrer leurs enfants à l'organisation. Et donc, vraiment, à la base, les cours sont un peu inoffensif, si vous voulez. Mais quand on monte dans l'organisation et que le contrôle, parce qu'il y a tout un système de contrôle dans l'organisation qui va être mis en place petit peu par petit peu, on va faire des vérifications de sécurité avec l'électromètre. Donc ça, c'est qu'une étape. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'à ma connaissance, nous avons enregistré la vérification de sécurité, on a filmé la vérification de sécurité, et ça, c'est une première dans le monde.
L'heure de découvrir en tout cas la pièce jointe de Manon Mariani.
Un acteur.
Oh, oui. Acteur.
Compliqué de le détacher de cette musique iconique, celle de Mission Impossible, car je vais évidemment vous parler d'un des scientologues les plus connus au monde qu'on a évoqué durant cette émission, Tom Cruise. Il naît en 1962 à Syracuse, dans l'État de New York, dans une famille modeste et catholique. Il grandit avec une mère très présente et un père qu'il décrira plus tard comme violent. À 18 ans, il quitte l'école et part tenter sa chance à New York, puis à Los Angeles. Très bon choix, puisqu'en quelques années, il devient l'une des plus grandes stars du cinéma américain, Risky Business, Top Gun, Rain Man. Né un 4 juillet, Tom Cruise est l'un des acteurs les plus populaires de sa génération. Mais en 1987, il fait la rencontre de Mimi Rogers, sa première épouse, membre de l'église de Scientologie. C'est elle qui l'initie aux méthodes de l'organisation. Tom Cruise explique qu'il y trouve les outils pour surmonter sa dyslexie et reprendre confiance en lui. Mais ce qui au départ semble être une démarche de développement personnel va rapidement devenir un engagement beaucoup plus profond. Dans les années 2000, Tom Cruise devient l'un des ambassadeurs les plus visibles de la scientologie. Il apparaît dans des vidéos où il explique que c'est un privilège d'être scientologue. Il participe à des événements officiels, soutient publiquement certaines de ses positions, notamment contre la psychiatrie et les antidépresseurs. Il profite même de la promotion de son film Le Dernier Samouraï pour en parler ouvertement. Pendant le tournage après De la Guerre des Mondes, il va aussi tenter de recruter Steven Spielberg qui réalisait le film. Il va totalement ruiner la promotion du film à cause de ça et les deux ne vont plus se parler pendant des années. Ça se répercute aussi évidemment sur sa vie privée. En 1990, il épouse l'actrice Nicole Kidman avec qui il adopte deux enfants. Leur divorce en 2001 laisse place à de nombreuses interrogations sur l'impact de l'église dans leur séparation. Kidman dira plus tard ne jamais avoir souhaité s'impliquer dans la scientologie, mais ses deux enfants, eux, y sont restés. Quelques années plus tard, Tom Cruise se marie avec Kathy Holmes, qu'il recrute dans l'église de la scientologie. Mais en 2012, elle demande le divorce et la garde exclusive de leur fille Souris. De nombreux médias américains affirment que la scientologie a joué un rôle central dans cette rupture. Aujourd'hui, Tom Cruise reste l'un des membres les plus importants de la scientologie. Il participe à certains rassemblements officiels et demeure un allié stratégique de l'organisation. Parallèlement, il continue de dominer le box-office mondial avec Mission Impossible ou Top Gun, tout en gardant sa vie, il faut le noter, religieuse, beaucoup plus discrète qu'auparavant.
Enfin, pour couronner cette émission, elle se réjouit de nous parler d'ultra fast fashion. Elle qui a vu le jour dans le bac à 2 euros d'une friperie. C'est bien sûr votre tata préférée. Bonjour Camille Lorente.
Bonjour les enfants. Et oui, aujourd'hui on va apprendre à fabriquer des vêtements. Mais non, je plaisante bien sûr. En France, les vêtements fabriqués par des mômes, on se contente de les importer et de les porter.
La chronique de Camille Lorente, c'est juste après Gabriel's Blame sur France Inter.
Mornings turn to night, and then the night becomes the day. I can't keep up with time. I keep losing still, keep hoping for that when a new can change my mind. Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Lies and shambles underneath the flashing lights. Gonna stay a while. Said what I say, it don't matter to me. Can't be a slave if I'm already free. Can't be a captive if it's where I wanna be. I'm not. slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Then the crowd calls. Who's gonna catch me when I fall down?
France Inter, les meilleurs moments de Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël et toute sa bande.
Elle est aimée des petits et des grands car sa bonne humeur transforme les aspects les plus cauchemardesques de notre société en véritable conte de Noël. C'est notre rayon de soleil d'hiver, notre phare dans la nuit, notre chère Camille Lorente.
Eh oui les enfants, c'est Tata Cam Cam. Et aujourd'hui on parle de la fast fashion. Vous savez que Tata adore vous expliquer le capitalisme, surtout quand l'invité est beau gosse.
Johan Rivoallant, vous étiez tellement bien coiffé l'autre jour quand vous dénonciez le lit ému qui risque d'étrangler les enfants que je vous ai presque cru. Ok, vous êtes BG pour un lanceur d'alerte, mais n'abusez pas trop quand même. Qu'est-ce que vous allez nous inventer ensuite? Que les culottes chines pourraient nous tripoter sans notre consentement? Parce que si c'est le cas, je passe commande tout de suite. C'est vraiment dommage que leurs vêtements en plastique imbibés de produits toxiques soient fabriqués par des esclaves à l'autre bout de la terre, parce qu'ils sont vraiment pas chers. C'est comme si que les trucs pas chers, en fait, ça coûte cher à la planète et aux droits humains. Mais c'est pas grave, parce que le but du capitalisme, c'est de faire un max de pognon. Et pour ça, le mieux, c'est d'exploiter les pauvres du Sud pour vendre de la merde aux pauvres du Nord. Plutôt malin, non? Attention, les mioches, si vous remettez en cause le système, on vous accusera de faire du mépris de classe. Eh oui, vous avez vu la taxe sur les colis Shein? Ça a fait disjoncter le RN. Il pouvait plus être populiste et nationaliste en même temps. Tata Cam Cam, elle a trouvé ça très rigolo. Bah oui, les pauvres aussi, ils ont droit de s'acheter des trucs, même s'ils ont aucun goût. Laissez-les consommer, déjà que leur vie est nulle. Alors, les gros hypocrites qui défendent l'environnement, la dignité des travailleurs et une économie responsable, ce serait pas plutôt que vous détestez les ploucs? Alors que Frédéric Merlin, le patron du BHV, il adore ça, les prolos. En tant que 233e fortune de France, il en côtoie souvent. Il s'est pas fait à manger lui-même depuis 2017. Et le patron de Zara, Armancio Ortega, savez-vous qu'il a perçu 2,8 milliards en 2024? Eh bah dis donc, c'est pas un salaire de plouc, ça. Je pense pas que ce petit fifou soit sapé en Made in China. Enfin bref, depuis le début de cette chronique, près de 150 camions de textiles sont partis à la poubelle et seulement 20% seront recyclés. Tata Cam Cam, ça lui donne envie de se taper la tête contre les murs. J'ai téléchargé une appli de respiration pour me détendre, mais dès que j'inspire, l'odeur de mes fringues de friperie me décolle la cloison nasale. C'est vrai qu'on peut acheter de la seconde main, comme il a dit tonton Yo-Yo, mais vous savez les enfants, il est impossible de moraliser le capitalisme, car c'est sa logique même qui conduit à des comportements immoraux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Marx. Alors en attendant de renverser le système, on peut espérer qu'on inventera bientôt la méga super ultra fast fashion. Ce sera tellement rapide qu'on n'aura même plus besoin de produire ou d'acheter des vêtements. On fera directement des virements aux patrons des grands groupes. J'ai vraiment hâte d'être leur petite pute pour de bon. Allez les gosses, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Tata vous expliquera tous les secrets de fabrication du foie gras.
Merci Camille Lorente à la réalisation de ce florilège. C'était Alicia Vulot. Nous on se donne rendez-vous lundi en direct au garde à vous puisqu'on parlera du retour du service militaire. À lundi.
Zoom Zoom Zen.